Vous écoutez Trudeau Landry.
On est de retour dans Trudeau Landry, 11h04, 25226 pour nous rejoindre par messagerie texte 1-877-670-9330. C'est le numéro de téléphone s'il y a quoi que ce soit. Nous signaler, comme à chaque jour à cette heure-ci, ben oui, on a le bilan quotidien qui vient d'être dévoilé. En ce qui concerne le nombre de cas à l'échelle nationale, c'est assez stable, je vous dirais, à 1513 nouveaux cas de personnes testées positives à la COVID-19. Les décès, c'est un bon important. Sincèrement, là, on est à 15 décès. Là, faudrait voir dans les détails là, si c'est des il y a des décès là-dedans qui étaient répertoriés au cours des derniers jours. C'est vraiment 15 décès dans la dernière heure.
C'est 4 dans les dernières 24 heures.
4 dans les dernières 24 heures et quand même, c'est 11 de plus. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres jours où le bilan était plus faible que ce que c'était réellement. Pour ce qui est des hospitalisations, on parle d'une hospitalisation supplémentaire. Mon Dieu, après 13 mois, je devrais pas avoir de misère à dire hospitalisation. Ce qu'on me disait ce matin, c'est que en termes d'hospit, brut, c'est à la baisse, mais les soins intensifs sont en augmentation.
7 de plus aujourd'hui.
C'est ça, ce qui nous amène à un bilan là, total de plus 1. La répartition régionale, on y reviendra dans les prochaines minutes, là, mais si je me fie à ce qu'on me disait ce matin avant que les chiffres soient officiels, c'était autour de 273 cas pour la capitale nationale. Encore très élevé. Est-ce qu'on va voir une petite tendance à la baisse? Faudra voir dans les prochains jours. Et pour ce qui est, par exemple, la région de la Chaudière-Appalaches, où encore une fois, on me disait que c'était très problématique et très préoccupant, 191 nouveaux cas. Encore une fois, on vous donnera les chiffres des autres régions aussi dans les prochaines minutes. On va aller faire un petit tour de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Il se passe beaucoup de choses là-bas. On va en discuter avec notre collègue chercheur à la chaire, Raoul Dandurand, Raphaël Jacob. Salut Raphaël.
Salut messieurs.
Commençons par le procès de Derek Chauvin, mais aussi l'espèce de climat là qui s'est installé. Déjà, bon, des tensions avec le procès qui a cours depuis plusieurs jours. Et là, survient en plus cet incident-là, le jeune homme noir qui a été tué par erreur par une policière qui pensait sortir son taser gun et qui finalement avait dégainé son arme. Bref, je sais pas par lequel tu veux commencer, mais il reste qu'il y a un lien à faire quand même entre les deux au niveau des tensions sociales que ça amène.
Ben, le lien est assez difficile à manquer, ne serait-ce que d'un point de vue géographique. Écoute, ça a lieu littéralement dans la même ville, dans la même région que le décès de George Floyd presque exactement un an auparavant. T'sais, je veux dire, c'est un mauvais film qui peut presque pas se scripter tellement que c'est impensable. Puis ça arrive littéralement en plein milieu du procès de Derek Chauvin. On avait 2 semaines de compléter, il restait à peu près 2 semaines, puis boum, en fin de semaine, on a cet incident-là. Fait qu'évidemment, extrêmement fâcheux. Ce qu'on sait de la policière, je pense que c'est important de le mentionner également, là, c'est que, premièrement, dans un premier temps, elle a été suspendue, et ça a pas pris beaucoup de temps, en l'espace de quoi, quelques heures après coup, elle a été formellement arrêtée et inculpée d'homicide involontaire. Donc, ça ne fait qu'augmenter, évidemment, les tensions. Puis quand on se parle de tensions, là aussi, il y a des échos, je veux dire, à s'y méprendre par rapport à l'an passé. Parce que dès à peu près 24 heures après l'incident, le maire de la ville, le maire de Minneapolis, est sorti pour imposer un couvre-feu. Le gouverneur du Minnesota, qui était à ses côtés lors de ce point de presse-là, a décrété l'état d'urgence, a promis qu'on allait avoir la présence policière la plus importante de l'histoire du Minnesota qui allait être déployée pour essayer de prévenir des grabuges. Et devinez qu'est-ce qui se passe, ça fait 4 jours qu'on a des grabuges. Ça n'a pas encore atteint l'ampleur de ce qu'on avait l'an passé, mais gardez ceci en tête, puis ça, je le répète non-stop, je pense, depuis des mois, là. Attendez qu'on ait le verdict du procès Chauvin. Parce que si ça chauffe déjà, imaginez dans 2 semaines, si jamais, je ne sais pas si on se dirige vers ça, là, mais si jamais il devait être acquitté, l'état de poudrière dans lequel on est déjà
présent. Pour ce qui est de la policière Kim Potter, c'est à ça que tu fais référence, Raphaël. Là. Est-ce qu'on est devant une policière à qui on reproche peut-être un comportement raciste, de faire du profilage? Parce que là, j'ai comme cru comprendre aussi qu'elle avait peut-être tendance à mêler son taser gun avec son arme à feu, ce qui est loin d'être une bonne idée. C'est quoi un peu le profil de cet événement-là, Raphaël?
Ben, le profil de l'événement, le profil de la policière, c'est pas la même chose. Ce qu'on sait de la policière, en fait, on l'a su avant même de connaître son nom, là, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même un assez long parcours. C'était pas une recrue. Ouais. Ce qui rend l'incident à la fois encore plus fâcheux, puis je pense pour bien des gens, encore plus difficile à comprendre puis à accepter. Comment tu peux te mêler entre ton taser puis ton pistolet, là, ouais. Je veux dire, écoute, je suis pas policier, je vais pas critiquer le travail de la policière ou de la possibilité que ça soit une erreur légitime, mais c'est sûr que ça fait beaucoup réagir. Maintenant, elle n'est pas accusée de quoi que ce soit formellement là qui a un lien disons, avec la race de la victime. En même temps, ce qui est vrai, puis c'est vrai, soit dit en passant, aussi dans le cas de Derek Chauvin, là, aux États-Unis, on peut être accusé, par exemple, de meurtre ou d'homicide involontaire, par exemple, par l'État, et on peut aussi complètement, séparément, être accusé par le gouvernement fédéral américain au niveau des droits sous les lois civiques. Autrement dit, droits civiques. Autrement dit, si jamais Derek Chauvin devait être acquitté à la fois de meurtre et d'homicide involontaire, il n'y a rien qui empêcherait, après coup, le département de la justice fédérale, dirigé évidemment par l'administration de M. Biden, il n'y a rien qui les empêcherait donc d'accuser à nouveau Derek Chauvin d'avoir violé les droits civiques, dans ce cas-là, de George Floyd. Donc, en principe, si jamais on devait découvrir qu'il y avait une composante raciale à l'incident qui implique cette nouvelle policière-là, Kim Potter, ça serait la même chose. Donc, les policiers sont pas à l'abri de toute accusation, c'est vrai, de la part des États, c'est vrai aussi de la part du gouvernement fédéral américain d'un point de vue spécifiquement racial.
Il y a un auditeur qui fait preuve d'un cynisme qui est quand même assez intéressant, là, c'est en, mm-hmm. en ce sens qu'il dit, et là, les avocats vont défendre la policière, vont nous dire que le monsieur est décédé parce que son cœur a arrêté de battre, pas parce qu'il a tiré dessus, parce que on regarde la défense d'Eric Chauvin, et là, c'est un peu ça, là. On essaie de nous faire croire, c'est-tu le tuyau d'échappement, c'est une condition cardiaque, c'est-tu un problème de drogue? Caline, il a mis le pied, le genou sur la gauche pendant 7 minutes, tu sais.
Ça fait 2 semaines et demie que ce procès-là dure, et ça demeure l'argument central le plus important de la défense de Chauvin. Écoute, je sais que c'est très difficile à croire et à accepter, je pense, pour la majorité des gens. En même temps, ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Rappelez-vous toujours du fait que tout ce que ça prend pour acquitter Chauvin, c'est un doute raisonnable pour un membre du jury. That's it. La barre est beaucoup plus basse à atteindre pour la défense que pour les procureurs. Mm. Donc, même si ça peut avoir l'air complètement farfelu, ce n'est pas joué. Je n'aimerais pas personnellement être dans les pieds là, d'un point de vue stratégique de la défense. Là. Je pense qu'ils ont une chance que la barre est plus basse pour eux parce que je pense que le travail est beaucoup plus difficile pour eux que pour les procureurs. Mais c'est quand même pas joué. Je vais me contenter de dire ça. Et de vous ajouter ceci parce qu'on est déjà rendu jeudi. Probablement que la prochaine fois qu'on va se reparler, la semaine prochaine, on va déjà avoir entamé les argumentaires finaux. Autrement dit, les procureurs vont justement avoir pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de jours, pour faire témoigner des témoins de leur côté que la défense, elle le fait, parce que la défense vient juste de commencer. Autrement dit, il y a pas beaucoup de monde qui se rue là pour défendre Chauvin.
Juste avant de passer à notre prochain sujet, est-ce que la question raciale fait partie du procès, parce que au niveau du contexte social, évidemment, les tensions par rapport à du profilage, etc., mm-hmm. c'est omniprésent. Mais dans le procès, est-ce que cette notion-là est abordée?
C'est tout le contraire. La réponse, elle est catégorique, c'est non. Et ça, on l'a entendu dès la première journée, en fait, littéralement, dès la première heure du procès, il y a maintenant un peu plus de 2 semaines, quand les procureurs ont stratégiquement choisi d'écarter toute la question raciale et toute la question même beaucoup plus large de la brutalité policière. Ce que le procureur en chef, donc l'avocat qui veut faire condamner Chauvin, a dit d'emblée, c'est écoutez, on n'est pas ici pour faire le procès de la police de Minneapolis, on n'est pas ici pour parler d'un débat social, d'un débat politique. Le problème ici, c'est un homme, c'est Derek Chauvin. Donc, on a essayé de circonscrire ça le plus possible. Mais, je le répète, si jamais il devait être acquitté, il y a rien qui, encore une fois, garantit que là, on n'aurait pas une autre accusation fédérale, cette fois-ci, qui, elle, serait spécifiquement là, liée à la question raciale.
Raph, parle-nous d'un autre sujet, puis ça retient l'attention depuis le début de la semaine aux États-Unis. Encore hier soir, c'était la une des bulletins de nouvelles nationaux hier soir, c'est le dossier du vaccin Johnson & Johnson.
Ouais.
Johnson & Johnson, on l'a pas encore ici au Canada. J'avais cru comprendre quand le vaccin avait été développé qu'il y avait un bon taux d'efficacité, puis qu'on le voyait un peu comme le vaccin Pfizer, sauf que là, le vaccin est encore sur pause. Ils sont là-dessus depuis le début de la semaine. Qu'est-ce qui se passe avec ça, Raph?
Il faut spécifier, je pense, Jérôme, d'emblée, c'est-à-dire qu'il avait été approuvé. Ça faisait à peu près 6, presque 7 millions de doses qui avaient été administrées de ce vaccin-là, qui est un vaccin en seulement une dose, justement. Okay? Ouais. Fait que quand tu étais vacciné au Johnson & Johnson, une fois, ben, tu étais pleinement vacciné. Ouais. Okay? Tu étais considéré comme étant pleinement vacciné. Mais au début de la semaine, effectivement, le gouvernement fédéral américain décide de le mettre sur pause. Pourquoi? Parce que il y a au moins 6 cas. Ça, je pense qu'il faut, le mentionner, là. C'est un minimum de 6 cas parce que ce ne sont que les cas qui ont été documentés, qui ont été officiellement recensés de thrombose. Donc, au moins un qui aurait causé la mort. Ce sont toutes des femmes. Ce sont toutes des femmes relativement jeunes. La plus vieille, je pense, avait un peu moins de 50 ans. OK? Et donc, pour être sûr que ce puisse être considéré assez sécuritaire, on va dire comme ça, on veut investiguer davantage. Bon. Maintenant, je pense que dans toute cette affaire-là, puis là, je parle pas juste du vaccin Johnson & Johnson, en fait, je vais ratisser très, très large, là. Je vais parler de la pandémie depuis un an. Il y a un problème épouvantable de communication des risques. C'est-à-dire que, puis ça, tu sais, j'enseigne les statistiques dans la vie à l'université, puis c'est quelque chose que je répète souvent à mes étudiants en demi-blague. Si il y avait plus de gens qui comprenaient les probabilités dans la vie, les machines à sous n'existeraient pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dans le cas du vaccin, ok, de ce vaccin-là, on parle de 6 cas documentés. Comme je l'ai dit, il y en a vraisemblablement plus que 6, ok, mais ça reste un nombre excessivement petit, ok, sur 6-7 millions de doses administrées. Donc, est-ce que ce vaccin-là spécifiquement est entièrement sans risque? La réponse, c'est non. Ok. Est-ce que les vaccins, incluant ce vaccin-ci, vont nécessairement vous donner une immunité à 100%, ok, qu'il soit sécuritaire ou non, là, contre une infection ou même peut-être à la limite contre des complications de la COVID? La réponse, c'est non. Mais le risque zéro, et c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont complètement perdu de vue depuis un an, le risque zéro, ça n'existe pas.
Ça frappe tellement l'imaginaire. Quand tu vois les reportages, puis aux États-Unis aussi, ils jouent ça assez dramatique, là, dans les bulletins
de nouvelles. Mais c'est que dès que tu as un cas anormal, ce qu'on appelle justement une aberration statistique, ça fait la manchette. Et c'est pour ça que l'image avec la machine à sous est pas complètement folle. C'est-à-dire que quand les gens voient une personne qui gagne à l'auto, c'est « aïe aïe, ça pourrait m'arriver ». Mais c'est quoi les chances que ça t'arrive? Oui, c'est possible, mais ce sont des chances qui sont minimes, qui sont microscopiques. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand on ratisse plus large, il y a eu combien de cas d'aberration statistique depuis un an qu'on a gonflé. Et là, tu sais, encore une fois, on pourrait en parler très longuement, mais rappelez-vous, il y a un an, au printemps de l'an passé, quand il y avait été question de la maladie, de l'espèce de syndrome qui ressemblait à la maladie de Kawasaki qui aurait touché les enfants qui avaient pogné la COVID. Oui. Puis là, c'était les manchettes partout, les gens qui avaient peur, c'était complètement anecdotique. Fait que, je veux dire, il faut faire attention. Puis, s'il y en a qui pensent qu'avec ces vaccins-là, quand tout le monde, ou en tout cas une masse critique de gens, va avoir été vaccinés, on va avoir éliminé tout risque, c'est faux. Mais c'est impossible. C'est une barre qui est impossible à atteindre. Fait que, tu sais, ça mérite d'être dit. Et dans le contexte spécifiquement de ce qui se passe avec Johnson & Johnson, où ça peut avoir des répercussions graves, c'est pas parce que le vaccin est dangereux. C'est parce que c'est en train de miner la confiance des gens envers les vaccins. Et là, c'est pas de la spéculation que je vous fais. Ce sont littéralement des données de sondage qui sont sorties ce matin par la firme YouGov aux États-Unis. Le taux de confiance des Américains envers les vaccins, pas juste celui de Johnson & Johnson, a chuté de façon appréciable depuis le début de la semaine. Donc, dans une perspective où on veut que les gens veuillent aller se faire vacciner, c'est quoi le message qu'on leur envoie? Hey, finalement, c'est peut-être dangereux. Puis, écoute, même si vous faites vacciner, on va garder les restrictions de toute façon parce que, ça se pourrait que malgré la vaccination, il y ait des cas à droite et à gauche de COVID après coup. Tu sais, ça n'a pas de bon sens et il faut que ça soit dit, là.
Raphaël, il y a un auditeur qui demande si entre deux cours et deux chroniques, tu aurais le temps d'aller faire un tour en Beauce dans les prochaines heures, faire un petit speech sur les probabilités.
Sur l'AstraZeneca.
Raphaël, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler.
Même chose.
Salut Raphaël Jacob, donc de la chaire, Raoul d'Endurant. C'est intéressant ce qu'il dit sur les fameuses probabilités. Moi, j'aime utiliser l'exemple de jouer ta paye ou ton fonds de pension. T'sais, est-ce que tu jouerais ton fonds de pension sur une probabilité de 1 sur 10? Pas sûr. T'sais, 1 sur 10, je veux pas, là, il y a quand même une chance sur 10 que tu perdes ton fonds de pension. Mais si on te disait 1 sur 100 000, c'est-tu quoi, je pense, je me dirais, au pire aller, je me dirais tough luck. 1 sur 100 000, m'en prendre la chance. Ben, c'est un peu ça. T'sais, je comprends qu'il peut y avoir des risques reliés au vaccin, mais c'est tellement, tellement, tellement minime que ça vaut pas la peine. Mais... sauf que c'est vrai que les autorités, des fois, avec ce genre de geste-là, qui peut être perçu comme étant une prudence saine, il engendre une perte de confiance envers le vaccin, puis on n'a pas besoin de ça en ce moment.
Mais je pense que les médias, puis moi, je suis pas dans la maladie mentale, d'ailleurs, les médias, là, l'obsession morbide anti-TVA, anti-ci, anti-ça, là, c'est carrément devenu une maladie mentale. Je suis pas là-dedans. Par contre, je pense que les médias ont une responsabilité. Tu sais, Johnson & Johnson, là, moi, je suis ça depuis lundi. Ça a commencé avec quelques articles de journaux là-dessus. Mais hier soir, dans un bulletin de nouvelles, tu sais, c'est le ton dramatique. Puis c'est les gros reportages sur la pause qui est prise dans l'administration de ce vaccin-là. Puis t'as pas nécessairement la nuance, justement, que Raphaël vient de faire. Là. Tu sais, on joue ça gros avec la musique dramatique. Puis tu sais, c'est là-dessus que les médias, je trouve, ont une responsabilité de donner les détails que sur les probabilités, justement. Là.
Et pendant qu'on se parlait, je veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, là, mais parce qu'il faudra voir comment ça s'inscrit dans la stratégie globale, mais le gouvernement fédéral qui a annoncé qu'il y a 1,2 million de doses du vaccin Moderna qu'on devait recevoir la semaine prochaine qui sont repoussées à la fin du mois d'avril. On va être déjà pas mal rendu à la fin du mois d'avril là, la semaine prochaine, mais quand même donc retardé de quelques jours, donc en espérant que ça n'ait pas trop d'incidence sur la vaccination. Juste avant d'aller à la pause, je vous parlais des chiffres du bilan régional, là, parce que bon, je vous ai donné le gros chiffre, 1513 cas. Je vous réitère, donc Capitale-Nationale, c'est 273. Pour ce qui est de la Chaudière-Appalaches, 191. Pour nos auditeurs de l'Outaouais, à 167, c'est quand même beaucoup mieux que les journées précédentes où on était largement au-dessus du 200, 207, 245, 290. En Estrie, là aussi, il y a une amélioration, 38 comparativement à 59 hier. Nos auditeurs de la Mauricie, Centre du Québec, c'est 54 cas comparativement à 64, donc une baisse de 10. C'est pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, c'est 33 cas. C'est plus qu'hier, mais en même temps, là, c'est dans l'espèce de moyenne là, qu'on voit au cours des derniers jours. Il est 11h20, 25226 pour nous rejoindre dans Trudeau-Landry. On fait une pause, on revient dans quelques minutes. Bougez pas.
Trudeau-Landry, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. On prend une petite pause.